Nous sommes un groupe de jeunes de 16 ans spécialisés dans la littérature, les humanités et la philosophie, en classe de première au lycée Édouard Herriot à Lyon. Sociabilité, solidarité, éducation et culture sont les valeurs que nous voulons faire vivre. Puisque nous avons la chance de recevoir aujourd'hui un spécialiste du sujet, arrêtons-nous sur une ressource fabuleuse, accessible à tous mais insuffisamment exploitée, les pouvoirs de la parole. Avec notre invité Jean-Corentin Poisson, nous allons explorer un domaine qui prend ses racines dans la Grèce antique, mais qui reste un enjeu sociétal contemporain. La rhétorique, ou l'art de bien parler. Ancien élève de Sciences Po Aix, conseiller politique et coach en prise de parole accompli, à 33 ans, vous êtes à la tête d'une entreprise de formation pour une parole efficace et impactante, appelée Aguaré. Très présent sur les réseaux sociaux, vous avez à cœur de démocratiser l'art oratoire. Vous vous définissez comme passionné, engagé et franc.
Afin d'introduire le sujet de la rhétorique, pouvez-vous nous expliquer comment est venu votre intérêt pour la prise de parole ?
Alors c'est quelque chose qui remonte assez loin. En gros, quand j'étais assez jeune, je m'intéressais, même plus jeune que vous d'ailleurs, je m'intéressais beaucoup à l'histoire. Par l'histoire, je me suis intéressé à la politique. Et par la politique, je me suis intéressé à la prise de parole. Donc depuis que j'avais peut-être 14-15 ans, je suivais énormément la politique. Et en fait, avec la politique, on voit le discours, on voit le débat, on voit tout ça. Et en fait, on se rend compte, quand on s'intéresse à la politique, que la parole, c'est une arme très puissante. Et donc ensuite, une fois qu'on a compris ça, bah, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on s'en sert de cette arme-là, de cet outil qu'est la parole ? Et c'est là que je me suis intéressé à ce sujet-là. J'ai fait des études de droit après, j'ai créé des concours d'éloquence, et j'ai continué, donc je les ai organisés pendant quelques temps. Plus tard, j'y ai participé. Et puis après mes études, j'ai fait des études de commerce et ensuite à Sciences Po à Aix-en-Provence. Et après mes études, je me suis dit, je vais appliquer à la fois ces deux passions-là, celle de la politique et de la parole, en commençant par la proposer auprès des politiques.
Nous voudrions savoir quel adolescent vous étiez et de quelle façon vous envisagiez votre vie quand vous étiez lycéen.
Oh, super question. Quel adolescent j'étais ? Alors, moi, j'ai un papa qui est militaire, donc j'ai déménagé toute ma vie. Et j'étais à la base très timide. Je suis quelqu'un qui est plutôt introverti de nature. Sauf que quand on est amené à déménager, c'est à nous de nous faire une place. C'est-à-dire qu'on arrive dans des lycées, dans des collèges, où les groupes sont déjà constitués, chacun a ses amis, et il faut réussir à se faire une place. Donc c'était à moi d'aller vers les autres. Donc j'ai dû sortir un peu de ma nature introvertie. C'est là que j'ai appris à m'intéresser aux autres, à parler avec eux, à forcer ma timidité, à aller au-delà de ma timidité. Et donc à m'exprimer plus ouvertement. Et la suite de votre question, pardon, comment j'étais adolescent et...
C'était comment envisagez-vous votre vie lorsque vous étiez lycéen ?
Comment j'envisageais ma vie quand j'étais lycéen ? Quand vous dites ça, c'est-à-dire comment est-ce que je me voyais plus tard, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Oui. Alors déjà, pas du tout formateur en prise de parole. Je ne savais même pas que c'était un métier. Je ne savais pas qu'on pouvait vivre de ça. Donc c'est pas du tout quelque chose pour moi. Moi, ce que je me voyais, en fait, je me présageais trois carrières, avocat, politique ou journaliste. Dans tous les cas, il y avait une notion de prise de parole. C'est pour ça que j'ai commencé par des études de droit, parce que en fait, ça pouvait amener à ça, à ces trois métiers-là, et surtout à ces trois métiers de la parole. Après, au-delà de ça, je me voyais pas du tout faire le métier que je fais aujourd'hui.
Comment définiriez-vous la rhétorique ?
La rhétorique, c'est la science de la conviction. On a plusieurs matières autour de la parole. Il y a la poétique qui s'intéresse au beau, c'est-à-dire vraiment c'est la parole en tant qu'outil artistique. Et à côté de ça, un peu plus tard, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a la rhétorique qui est née avec toujours cet enjeu de conviction. La rhétorique, elle est née des procès, en fait. Elle est d'abord née dans le milieu juridique, et ensuite elle est arrivée dans le milieu politique. Mais c'est toujours la conviction, qu'elle soit politique, qu'elle soit juridique, qu'elle soit économique. La rhétorique, c'est comment est-ce que je vais convaincre ? Quels outils je vais utiliser pour convaincre ?
Nous avons appris cette année que l'art de la parole et la démocratie sont étroitement liés depuis l'Antiquité. D'ailleurs, vous mettez vos compétences au service des politiques. Quel lien établissez-vous entre rhétorique et suffrage universel direct ?
En fait, la rhétorique, comme je vous le disais, au cœur de la conviction. La démocratie, elle s'exprime par la décision. Fait une démocratie, on est en démocratie parce qu'on peut exprimer nos décisions, parce que nos décisions ont un impact. Les citoyens ont un impact sur la vie de l'État. Et ça signifie que celui qui veut avoir un impact sur l'État, sur son pays, doit pouvoir s'exprimer et doit réussir à convaincre ses concitoyens. Donc un pays où il n'y a pas de démocratie, la rhétorique, en fait, elle ne sert quasiment à rien, puisqu'elle n'aura pas d'impact. On ne lui laisse pas avoir un impact. Quand on est en démocratie, la rhétorique, elle est essentielle parce que c'est elle qui va permettre de faire choisir au peuple, de faire choisir aux électeurs une orientation ou une autre. Parce qu'on essaye, de, encore une fois, de convaincre du bon fondement de notre position.
Lorsque vous conseillez un homme politique, est-ce que vous parvenez à rester neutre ?
C'est très difficile. C'est très difficile. Alors là, je vais parler peut-être un peu plus de ce que j'ai fait avant. Quand j'étais, pour le coup, à 100% conseiller communication d'élu, j'ai travaillé, il m'est arrivé une fois de travailler avec une élue avec qui je n'étais pas du même bord politique à l'Assemblée nationale. Et au début, je le voyais comme un métier d'administrateur. Comme je disais, mon père est officier militaire. Et donc, ben, moi, je voyais ça comme un peu comme ce que faisait mon père, être au service de l'État. Sauf que ce n'est pas la même chose, puisque là, on sert les convictions d'un élu. On ne fait pas qu'appliquer quelque chose d'étatique. C'est très différent. Et donc, en gros, en fait, quand je conseille un élu, j'ai du mal maintenant un peu plus à rester neutre. Donc, j'avoue que je choisis les personnes avec qui je travaille au sens large. Ça ne veut pas dire que je voterai pour cette personne si elle se présentait, mais ça veut dire que je n'ai pas une opposition majeure avec ce qu'elle incarne et ce qu'elle représente. C'est mon choix. Je travaille avec beaucoup d'autres formateurs qui fonctionnent différemment là-dessus. Moi, je sais que j'aurais du mal à réellement conseiller quelqu'un à qui, en tout cas, je suis fondamentalement opposé.
Comment vous situez-vous en tant qu'entrepreneur lorsqu'un client fait appel à vos services ? Penchez-vous du côté du portefeuille ou du côté du cœur ? Vous imposez-vous des barrières relatives à votre éthique personnelle ?
Très, très bonne question. Oui, je m'impose des barrières. J'ai suivi une formation à l'action politique il y a quelques années, en dehors de Sciences Po, Le premier séminaire était très intéressant. C'était une personne qui nous disait notamment deux choses. Choisissez vos maîtres et définissez vos valeurs. Choisissez vos maîtres, enfin plutôt d'abord définissez vos valeurs, ensuite choisissez vos maîtres. Choisissez vos valeurs, ça veut dire déterminer un à trois axes qui sont les fondements majeurs de ce qui vous caractérise. C'est-à-dire des choses pour lesquelles vous êtes prêt à tout. C'est ce qui vous caractérise en termes de valeurs, en termes d'idéologie, au plus profond de vous-même. La valeur qui vous tient le plus à cœur. Pour certains, ça sera la famille, ça peut être la vie, ça peut être l'écologie, ça peut être ce qu'on veut. Mais il faut être conscient de, voilà, si je dois administrer, si je dois arbitrer entre deux choses, ça sera cette valeur-là qui sera toujours la plus importante pour moi. Et la deuxième chose, c'était choisissez vos maîtres. En fait, c'est des personnes qui vous inspirent, soit des proches, soit des personnes plus publiques, on va dire. En tout cas, des personnes qui vous guident aussi parce qu'elles représentent et parce qu'elles incarnent. Alors, moi, dans mes clients, la seule valeur contre laquelle je ne peux pas aller, c'est-à-dire que m'arrivait de refuser des clients parce que j'estimais qu'ils ne l'incarnaient pas, c'est celle de la vie, c'est la défense de la vie sous toutes ses formes. Et donc, ça, c'est quelque chose, je pense, qui est fondamental quand on est entrepreneur. Il faut définir son éthique, définir ses valeurs, parce que c'est ça qui permet de poser des limites et de ne pas travailler n'importe où, n'importe comment. Donc oui, bien entendu, l'aspect financier doit être pris en compte, parce que c'est le métier d'entrepreneur qui veut ça. L'entrepreneur, c'est pas un bénévole, et c'est normal. Mais oui, il faut savoir se fixer des limites.
On voulait aussi vous demander quelles sont vos valeurs et votre éthique d'entrepreneur, pardon.
Alors, comme je disais, moi, ma plus grande limite, c'est la défense de la vie. Je n'irai pas avec certaines sociétés. Alors, je ne suis pas là pour exprimer non plus mes idées, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Je ne pense pas que ce soit l'objet de cet échange, mais je me fixe des limites sur cette question-là de la vie, et donc certaines sociétés avec lesquelles je refuserai de travailler. J'ai déjà refusé de travailler, d'ailleurs, parce que ça ne rentre pas dans ce pourquoi je suis prêt à me battre vraiment. Et c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Après, il y a aussi certaines sociétés dont j'apprécie pas les pratiques. Typiquement, je refuse de travailler avec certains organismes de formation qui exploitent les formateurs. je trouve qu'ils payent très mal, qui ne comprennent pas la qualité d'informateurs, qui font du chiffre. Et ça, c'est pas ma vision. Donc je travaille avec des organismes de qualité. Là, c'est plus que je vais refuser sur la forme de travailler avec eux. Pour moi, c'est les deux grands sujets. Mes valeurs, c'est ça. C'est la défense du métier d'indépendant. C'est la défense du métier de formateur en prise de parole. C'est la défense de la vie. Et c'est surtout, en fait, ça c'est plus moi qui vais aller le chercher, de travailler avec des gens qui m'intéressent. Je fais ce métier-là parce que j'aime entendre des gens qui ont des projets à cœur, qui leur portent vraiment au fond de leur cœur, au fond de leur âme, et de les aider à les réaliser. C'est surtout ça qui m'anime.
Merci beaucoup pour cette réponse. Sur votre site internet agoré.fr, vous mettez en avant votre goût pour la transmission. N'avez-vous jamais été tenté par une carrière dans l'enseignement public ?
Alors, oui et non. L'enseignement me plaît beaucoup. J'enseigne parfois dans des écoles de commerce, parfois dans des lycées d'ailleurs, mais pas de le faire à temps plein. Pour une raison simple, c'est que le métier d'indépendant me permet de n'avoir aucune journée qui se ressemble, de travailler un jour avec des étudiants, l'autre jour avec un grand groupe du CAC 40, et le surlendemain avec un jeune start-upper qui est en train de lancer sa boîte. Et c'est ça qui me plaît, c'est d'avoir des profils très différents, de m'adresser à des personnes différentes. Or, de travailler directement en tant que, enfin, en CDI, entre guillemets, dans l'enseignement, je trouve que ça limiterait trop, les personnes avec qui je travaille.
Question provoque pour voir quel rhéteur vous êtes. Lors des dernières législatives, il y a 5 mois, vous avez mis ce post sur LinkedIn. Aujourd'hui, on est à la politique du tweet et de l'invective. Plus de fond que de la forme. Comment vous situez-vous face à ce paradoxe ? Vous déplorez le manque de fond alors que vous enseignez essentiellement la forme.
Non, c'est faux. C'est totalement faux. Mon métier, c'est pas de travailler que la forme. En fait, quand on travaille sa parole, on travaille aussi son fond. Parce qu'avant de s'exprimer, il faut savoir ce qu'on veut dire. Et c'est ça que je reproche à la politique actuelle, c'est que, en tout cas pas à toute la politique, mais à une partie de la politique actuelle, c'est que quand on pense plus à son tweet, à est-ce que ça va être retweeté, à, etc., que pourquoi est-ce que je dis ça ? Quel est mon objectif final ? Quelle est ma vision pour la France, pour la collectivité, pour la région dans laquelle je suis ? Quand on pense d'abord aux médias avant de penser à la vision long terme, c'est là qu'on est dans la forme. Moi, mon métier, c'est pas que de la forme, c'est de penser le fond et ensuite de le mettre en forme.
Poursuivons avec cette question. En tant qu'expert, pouvez-vous nous donner quelques conseils pour nous protéger des manipulations de la parole et de ses dangers ?
Très très vaste sujet. Alors là, on est vraiment sur la question de l'esprit critique. Et c'est un sujet qui est très très important aujourd'hui. On voit de plus en plus, par l'intelligence artificielle, par la multiplication des médias, qui est en soi une bonne chose et dans un certain sens quelque chose de dangereux. Parce que beaucoup de médias, ça veut dire aussi potentiellement beaucoup de médias qui informent mal. La désinformation, c'est la malinformation qui est dangereuse, je trouve, aujourd'hui. Et puis l'intelligence artificielle crée de la désinformation. Donc pour moi, l'esprit, comment se défendre de la parole aujourd'hui ? Ben en fait, en recroisant les sources, en allant chercher à la source des sources, c'est-à-dire quand on nous présente un chiffre, aller le vérifier. Très souvent, ça sera le ministère de l'Intérieur qui aura des chiffres sur certains sujets, parfois ça sera dans d'autres ministères, mais aller chercher auprès des sources officielles quelles sont les informations. Aller chercher auprès des experts reconnus, et pas des experts qui se reconnaissent eux-mêmes. C'est toujours ça, c'est essayer de vérifier les sources. Et puis, bien entendu aussi, d'apprendre comment fonctionne la rhétorique et comment fonctionne la dialectique. Il y a un livre que je conseille énormément, en fait c'est deux livres, mais c'est exactement les mêmes, à peu de choses près, c'est « L'art d'avoir toujours raison » de Schopenhauer, et en fait une réadaptation entre guillemets de ce livre qui s'appelle « Avoir raison avec Schopenhauer », qui a été écrit par Guillaume Prigent, et dans lequel vous trouverez des stratagèmes qui permettent de convaincre à tout prix, et y compris au prix de la décence et au prix de la vérité. Or, si on apprend comment le faire, on apprend aussi comment s'en défendre. Donc là, c'est 38 stratagèmes, et je vous invite vraiment à lire ce livre, il se lit très rapidement. En le lisant, essayez à chaque fois d'analyser après, dans les médias, dans ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce que vous voyez dans des articles, à la télé, essayez de voir, bah là, c'est marrant, ce que j'entends, ça me rappelle tel stratagème, donc bah, potentiellement, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qui se dit, il va falloir que je réfléchisse, et que j'essaye de comprendre pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qu'il essaye de dissimuler, pourquoi est-ce qu'il se met en colère, pourquoi, etc. Et c'est par ça, en fait, c'est en apprenant la rhétorique qu'on peut aussi se défendre de la rhétorique des autres. C'est toujours pareil, hein, la connaissance, elle permet d'éprouver la réalité et donc de travailler son esprit critique.
C'est un livre que nous avons étudié ce
semestre.
Un très bon livre.
Ouais.
Parmi les stratagèmes de Schopenhauer,
contre
lesquels pouvons-nous nous prémunir ?
Alors, dans les stratagèmes de Schopenhauer, il y en a beaucoup. En fait, il y a 38 stratagèmes chez Schopenhauer. Je ne vais pas pouvoir vous faire la liste là comme ça. Il y en a un qui me vient en tête parce que là, je prépare une vidéo sur celui-ci. C'est la pente savonneuse. La pente savonneuse, elle consiste à prendre un sujet. On part d'un constat. On dit, si on fait ça, il va se passer telle chose mauvaise. S'il se passe telle chose mauvaise, il va se passer telle chose mauvaise, etc. Et en fait, on fait, comme l'indique le nom, hein, une pente savonneuse, c'est-à-dire qu'on glisse petit à petit vers une situation catastrophique. On part de quelque chose de lambda pour arriver à quelque chose de très critique. L'exemple sur lequel je travaille là, c'est Nicolas Sarkozy, il y a quelques années, quand on passait au paquet de cigarettes neutres, qui prend la parole en disant « si on accepte le paquet de cigarettes neutres, demain, ça sera la bouteille de vin neutre. Et donc, ça en sera fini des appellations, et donc, ça en sera fini du terroir, et donc, ça en sera fini du savoir-faire français. » En fait, l'idée, c'est que... Pourquoi il fait ça ? Parce que dans son résumé, c'est, en gros, si on accepte le paquet de cigarettes neutres, demain, il n'y a plus de savoir-faire français. C'est ce qu'on appelle la pente savonneuse. On amène à la conclusion la plus catastrophique possible. Et on élude le fait que, potentiellement... le résultat peut être moins grave que ce qui est décrit, voire il peut être positif. Donc c'est d'essayer de comprendre, quand on voit qu'il y a un chemin comme ça, où on passe par plein d'étapes pour arriver à la conclusion, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça va un peu loin dans le fil du raisonnement ?
Et lorsque vous avez eu affaire à des personnes qui s'exprimaient, quels stratagèmes étaient les plus fréquents ?
Je pense que celui que je vois le plus, il y en a deux qu'on voit beaucoup. Alors je parle pas forcément des gens avec qui je travaille parce que j'encourage pas forcément à utiliser ces stratagèmes mes clients, mais c'est plutôt dans ce que j'analyse dans les médias et ailleurs. Il y en a deux qu'on voit beaucoup. Le premier, c'est ce que j'appelle la stratégie Palpatine, pour ceux qui ont vu Star Wars. C'est le deuxième ou troisième stratagème de Schopenhauer, je sais plus, un de ses premiers en tout cas. Alors, en gros, c'est on avance petit à petit, en posant les jalons d'un raisonnement, mais sans jamais dire à l'avance notre conclusion. On ne dit pas ce qu'on veut conclure, on ne dit pas vers où on veut aller. Simplement, on va dire, ok, est-ce que vous êtes d'accord qu'on observe ça ? Ok, est-ce que vous êtes d'accord qu'on observe ça, qu'on observe ça, qu'on observe ça, etc. Ok, la personne valide tout, et seulement là, on pose notre conclusion. C'est un stratagème qui est très utile, parce qu'il nous permet d'avancer à découvert, et donc, ça évite que notre interlocuteur, notre contradicteur même, ne s'oppose à ce qu'on installe nos prémices. Et le deuxième que je vois beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'épouvantail, ou l'homme de paille. C'est quand tout simplement on va caricaturer la vision, enfin l'assertion plutôt, de notre contradicteur. On va lui donner une vision qui est fausse, qui est grossiste, qui nous permet d'attaquer une vision caricaturale plutôt qu'une vision plus fine, qui est toujours plus compliquée à attaquer.
Très bien, merci beaucoup. On voulait savoir si vous aviez déjà eu affaire à des stratagèmes ad hominem.
Alors, moi, personnellement, pas que je m'en souvienne. Après, moi, j'ai peu débattu. Les seules fois que j'ai débattu, c'est quand je faisais de la politique étudiante, mais ça remonte à quelques années, et c'était pas les plus beaux débats à avoir. La politique étudiante est souvent un peu plus violente que la vraie politique, entre guillemets. L'attaque ad hominem, on la voit très souvent. C'est d'ailleurs très compliqué de la différencier de l'attaque ad personam. Il faut bien la différencier, c'est très important. L'attaque ad hominem, pour moi, elle n'est pas, c'est pas forcément une mauvaise attaque. Parce qu'elle, l'attaque ad hominem, elle remet en cause une cohérence. Il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que dit mon adversaire sur un sujet et ce qu'il dit sur un autre. L'idée, c'est que cette cohérence, elle doit être sur le fond, sur la forme et dans le temps. Typiquement, si on reproche, ça a été beaucoup le cas avec plusieurs ministres d'Emmanuel Macron, notamment au début quand il a été élu, certains qui ont accepté de travailler dans son gouvernement et qu'il avait critiqué avant, on leur a beaucoup reproché ça. Ça, c'est une attaque ad hominem. Vous acceptez d'être ministre, mais il y a quelques mois, vous le critiquiez encore. Pour moi, c'est pas une attaque qui est mauvaise. On a le droit d'attaquer là-dessus. L'attaque ad personam, elle est différente parce que là, c'est de l'insulte, en fait. C'est vraiment attaquer son adversaire sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet du débat. Donc c'est les deux, la nuance est assez ténue, mais elle est très importante. Donc l'attaque ad hominem, on la voit souvent, elle n'est pas dérangeante, selon moi en tout cas. L'attaque ad personam, on la voit beaucoup plus rarement, malheureusement on la voit de plus en plus, mais elle reste assez rare. Mais elle, pour le coup, il faut à tout prix l'éviter.
Est-ce que vous pouvez nous donner le mot de la fin de cette interview, en faire la péroraison ?
La péroraison, eh bien, ouais, pour moi, le mot le plus essentiel, celui qu'il faut retenir, c'est de parler. La rhétorique, c'est de parler. Il faut parler pour convaincre, il faut parler pour pratiquer, pour s'entraîner, il faut parler pour avancer, il faut parler pour s'améliorer. Donc, parler en toute occasion, apprenez à convaincre, c'est comme ça que vous deviendrez meilleur pour vous, c'est comme ça que vous deviendrez meilleur pour votre vie personnelle, pour votre vie professionnelle, et c'est aussi comme ça que vous deviendrez des citoyens acteurs de la société, acteurs de la cité, et donc acteurs de votre pays, de votre vie, de votre région, de là où vous êtes. Et c'est ça pour moi, encore une fois, l'essence de la rhétorique, c'est d'être acteur de nos vies et de ce qui nous entoure.
Merci beaucoup pour vos réponses et pour cet échange.
Merci à vous.
Il est l'heure de soigner notre sortie en parlant. Merci beaucoup à Jean-Corentin Poisson. Si nous devions retenir une idée de cette interview, nous dirions qu'apprendre à manier la rhétorique, c'est apprendre à déjouer les pièges de la parole, et nous sommes donc sur la bonne voie. La rhétorique, c'est débattre, s'émanciper, échanger, se rendre libre et heureux, construire la vie de la cité, bref, vivre ensemble, et c'est accessible à tous. Parler, parler, parler encore, c'est en parlant que vous deviendrez un bon rhéteur.